Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2021 de la saison NFL sur TD Actu. Une journée, une preview et on est sur les Chicago Bears aujourd'hui. À mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour.
Salut.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour à tous.
Et messieurs, on va parler donc de Chicago, une équipe qui a terminé à 8 victoires et 8 défaites la saison dernière. On est dans le ventre mou là, de la NFL depuis quelques jours. Andy Dalton est arrivé, Jesse James aussi, Angelo Blackson, Christian Jones, Desmond Trufant notamment. Justin Fields, évidemment, a été drafté. Tevin Jenkins sur la ligne offensive, mais lui, sa saison est probablement terminée. On l'a appris il y a quelques jours. Ils ont perdu Mitchell Trubisky, Anthony Miller, Charles Leno, Bobby Macy, Brent Urban, Barkevius Mingo, Kyle Fuller, Artie Burns, Buster Skrine, Tashaun Gibson et Cordarrelle Patterson. Il y a eu pas mal de mouvements du côté des départs à Chicago. Nouvelle reconstruction qui semble démarrer à Chicago. Alors, c'est étrange de dire ça pour une équipe qui a quand même accroché 8 matchs l'an dernier, mais avec la draft de Justin Fields, ça semble quand même être l'idée. Est-ce qu'on attend quelque chose de cette année, Raoul, ou est-ce qu'on est vraiment sur de la transition ?
Oh bah, il faut commencer à se lancer un peu. On n'a pas drafté Justin Fields juste pour faire de la déco. Il y a une défense, on va en reparler après, qui est très solide. Il y a du matos autour de lui. En tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye de commencer un petit peu à lui donner des cibles aussi, à lui donner un peu de soutien au sol. Donc, n'attendons pas trop, profitons d'avoir enfin un quarterback qui peut apporter un peu d'enthousiasme à cette équipe de Chicago, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un. Moi je pense qu'il faut commencer à rêver plus grand. Peut-être pas forcément des playoffs.
Je vois les yeux de Greg quand il entend rêver plus grand.
Oui, je l'ai fait exprès pour Greg, mais
il a deux doigts d'ouvrir la porte de son placard et de sortir son nouveau maillot là.
Floqué du numéro 30. Pour Chicago, c'est, disons que la draft d'un jeune quarterback prometteur doit redonner un peu des motifs d'espoir et doit permettre à cette équipe, qui pourtant n'a pas des bilans catastrophiques sur les dernières années, ils ont quand même eu un titre de division il y a pas très longtemps, donc c'est encourageant et il faut capitaliser là-dessus rapidement, je pense.
Bon, on est dans l'euphémisme quand tu dis que ça fait longtemps qu'ils cherchent leur franchise quarterback, ça se compte en décennies.
Ouais, oui, pas loin de 40 ans.
Est-ce qu'il y en a déjà eu un
on ne sait même pas s'il y en a vraiment aussi. Eu un très grand. Ouais. Greg, est-ce que ils peuvent rêver plus grand avec l'arrivée de Justin Fields?
En tout cas, alors au moment où on enregistre l'émission, il y a surtout eu la première semaine de pré-saison. On a vu quand même un bon échantillon, malgré tout, de quoi déjà redistribuer possiblement les cartes avec Andy Dalton, à qui on avait vendu le poste de QB1. Ça avait fait grincer pas mal dedans à son arrivée du côté de l'Illinois. Mais en tout cas, oui, la question présentement, c'est surtout de savoir à quel moment on va l'intégrer justement en ce statut de numéro 1, parce que pour l'instant, c'est pas encore établi. En effet, je pense que si vraiment on est ébloui sur le reste de la pré-saison du côté de Chicago, on va pas se poser la question non plus 6 mois, même si encore plus en sachant que malgré la dernière campagne de playoff, je suis pas sûr que Matt Nagy soit le coach le moins menacé dans la ligue, donc je pense que prendre une décision d'emblée serait pas forcément une mauvaise chose. Et oui, après le casting autour de lui, bon, est-ce qu'il est? Il a quand même toujours Allen Robinson, qui est un des top receveurs de cette ligue, un des receveurs en tout cas, qui n'est pas forcément le plus mis en avant, mais qui reste extrêmement productif, je trouve, saison après saison. Sur le poste de tight end, on en attend un petit peu plus d'un Cole Kmet, par exemple, qui a été drafté l'an dernier, je crois, au deuxième ou troisième tour, qui a été un petit peu couvé derrière Jimmy Graham, mais dont on attend un petit peu plus de ce binôme, justement. Après, le reste, ça fait pas partie que des points forts, mais en tout cas, Justin Fields a cette capacité, en tout cas, d'être performant dans les airs. On l'avait vu, hein, notamment, je rappelle son match contre Clemson en playoff l'année passée, où on a vu que dans le domaine aérien et vertical, il était capable de faire des différences. Et puis, il a cette mobilité, encore une fois, qui est capable d'être extrêmement précieuse dans cette équipe des Bears. Donc, oui, offensivement, très clairement, ça peut être une équipe encore plus séduisante ou en tout cas qui mettra un peu moins de pression exclusive sur les épaules de la défense.
Bon, on a en effet parlé beaucoup de Justin Fields, etc., mais la qualité principale de cette équipe ne se situe pas là, a priori, Raoul.
Non, c'est clairement en défense. On n'a pas mentionné, juste pour compléter l'attaque, et promis, je passe en défense, c'est David Montgomery au sol quand même, qui sort d'une bonne saison, qui peut aider un peu Justin Fields, si la ligne l'aide aussi. Clairement, le point fort, c'est la défense. Il y a évidemment Khalil Mack en tête d'affiche qui attire beaucoup d'attention et qui peut laisser de la place à côté de lui à Robert Quinn, qui avait fait une belle année 2019, un peu moins bon en 2020. Donc là aussi, qui va pouvoir l'aider. Il y a quand même des très beaux noms. T'as Danny Trevathan, Roquan Smith, Eddie Goldman qui revient. Tu vas avoir Hakeem Hicks, Bilal Nichols. Enfin, tout ça, c'est des joueurs qui vont poser énormément de problèmes aux attaques adverses. Et heureusement, parce que derrière, c'est plus compliqué en défense. Mais clairement, le front seven aujourd'hui est un des tout meilleurs de la NFL largement.
Oui, je suis content que tu aies apporté la nuance quand tu as dit front seven, parce qu'en fait,
Ah oui.
c'est plus toute la défense qui a un point fort. En tout cas, pour moi, le départ de Kyle Fuller pose de gros problèmes, même s'il y a des bons safeties. Mais voilà, ils sont 11e défense de la ligue l'an dernier. C'est notamment grâce à ceux que tu as cités, Khalil Mack qui a encore un 9 sacs. Mais Greg, on est d'accord que c'est vraiment le front seven le point fort au moment où on se parle.
Oui, très clairement, c'est sûr que oui, bah on peut le dire tout de suite, tu vas enchaîner sur les points faibles en l'occurrence, c'est sûr que le poste de cornerback, ça risque d'être un point faible assez notable.
De toute façon, je crois qu'on a fait le tour des points forts là, non?
Oui, bah grosse
Oui, c'est
défense
vrai, c'est vrai.
et casting intéressant quand même autour du quarterback rookie. Oui, globalement, ça l'est. Pour moi, il y a quand même un. Alors, je le mettrai en facteur X, l'autre point en l'occurrence, mais c'est sûr que le poste de cornerback. Alors, on a vu quand même que Jalen Johnson, même s'il n'a pas été hyper régulier pour sa campagne rookie, je trouve qu'il apporte quand même une agressivité qui, dans le système défensif de Chicago, est pas déconnant. Donc, je pense qu'on a sans doute dans l'espoir du côté de McNagy et de son coaching staff d'en faire un corner numéro un d'impact cette saison. Après, à côté, bon, je encore une fois, hein, j'ai eu des bons souvenirs à Atlanta avec Desmond Trufant, mais là, ça devient un petit peu chaud quand même.
C'est compliqué.
Voilà. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Tu vois, si tu me demandes un cornerback qui correspond à l'identité de Chicago, je pense que Desmond Trufant, il arrive en 30e ou en 40e nom sur le papier. Et là, on a vu que l'année dernière, c'était très dur et j'ai l'impression qu'ils l'ont re-signé. Alors, je sais pas si c'est pour des raisons salariales, enfin, en tout cas financières en premier lieu. Mais ouais, vaut mieux qu'il y ait un autre cornerback éventuellement qui sorte du chapeau, peut-être un Kendall Vidor qui se mette plus en évidence. Voilà, comme ça, j'essaie de voir rapidement ce qu'ils ont en roster, ce qu'ils avaient en tout cas l'an dernier. Duke Shelley également, mais c'est sûr que ça fait extrêmement léger sur le papier quand en plus tu joues dans une division où tu as Aaron Rodgers, où tu as notamment Minnesota avec un Justin Jefferson qui a marché sur l'eau l'an dernier. C'est quand même risqué de t'exposer contre la passe s'il y a des lignes qui arrivent à contrecarrer. Pas une mince mission en l'occurrence, mais si tu as des lignes qui arrivent à contrecarrer le pass rush des Bears.
Surtout
Juste pour être
que, vas-y.
pardon, j'allais dire juste pour être clair par rapport à ton propos, Greg, les cornerbacks, du coup, tu les as mis en point faible ou en facteur X?
Non, plutôt en point faible. J'ai
En
un autre
point.
facteur X qui se
D'accord.
rapprocherait un peu d'un point faible, mais là en l'occurrence, oui, pour moi, c'est un gros gros point faible le poste de cornerback.
Ouais, on est d'accord qu'en effet, bon, Johnson, il défend 15 passes l'an dernier, comme tu l'as dit, il a eu des flashs où il a montré qu'il était prometteur, mais c'est vrai que derrière, il y a très très peu de profondeur, donc ça risque d'être problématique. Raoul, au niveau des autres problèmes qui pourraient les entraîner vers une probable défaite et un non-titre en fin de saison, on est aussi obligé évidemment d'aller vers la ligne offensive.
Ouais, en fait, il y a pas beaucoup de grosses satisfactions. Il y avait besoin de renforcer le poste de tackle et ils ont drafté pour ça Tevin Jenkins, mais il est blessé. Ils ont fait venir Elijah Wilkinson des Broncos, mais c'est pas la panacée. Donc voilà, j'étais obligé de le faire.
Le premier de l'année. Un peu d'émotion toujours hein, concernant.
Je vais essayer de pas en faire dans chaque épisode de preview, promis. Mais voilà, ça manque un peu de profondeur, ça manque même sur les postes de titulaires de talent, de gros talent en tout cas. Et malheureusement, Justin Fields, tout bon qu'il a l'air, avec le jeu au sol dont on a un peu parlé, les receveurs qui peuvent l'aider aussi. J'ai peur que cette ligne offensive elle tire un peu tout ça vers le bas et que malheureusement on ne voit pas le vrai potentiel de cette attaque dès cette année.
On rappelle qu'ils ont signé le vétéran Jason Peters hein, aussi, Grégory. Je sais, non, quand tu lèves juste le sourcil gauche, visiblement c'est pas un motif d'espoir. J'allais te demander, mais quand tu ne lèves qu'un seul sourcil.
Ah, tu fais des analyses.
Apprenez à lire la lecture labiale.
Je connais votre body language.
Je mentaliste.
Non, moi c'est toujours la même chose. En fait, ce qui enfin. Jason Peters, voilà, je pense que il y a plus forcément à sourciller pour le coup. Il a montré quand même qu'il était capable d'être très performant en NFL. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura forcément une date de péremption. Je veux bien que Tom Brady sur un poste de quarterback où on arrive plus ou moins à bien gérer la poche. Là, Jason Peters, quand même, voilà, il est au duel chaque semaine. Il va bientôt avoir 40 ans de mémoire à la fin, enfin, début de l'année prochaine. Il est a priori parti pour être tackle gauche avec le forfait de dernière minute de Tevin Jenkins, vu qu'à mon avis Jermaine Eiffel va rester à droite. Je vais le dire tout de suite, pour moi c'est mon facteur X, la ligne offensive, parce que encore une fois, comme disait Raoul, tout bon que puisse être Justin Fields ou aussi efficace que puisse être dans un premier temps Andy Dalton. Andy Dalton, on l'a vu à Dallas l'année dernière, hein, tu lui retires avec la ligne offensive qui était plus celle traditionnelle des Cowboys. Il a essayé de surnager, mais au bout d'un moment, il ne peut pas faire de miracle malgré une très bonne escouade de receveurs. Et là, je pense que du côté de Chicago, ça va être la même chose. Ouais, c'est une escouade où, encore une fois, on va se reposer sur... on a qui en valeur sûre dans cette équipe éventuellement Cody Whitehair, plein centre.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà, qui fait le boulot depuis qu'il a été drafté. Après, pour le reste, ça me paraît un poil plus léger. Peut-être James Daniels également, le garde d'Iowa. Mais ouais, sur les extérieurs, ça me paraît un peu tendre. Jamais été un grand fan de Jermaine Eiffel. Et le fait de remplacer Charles Zeno par Jason Peters, ça apporte peut-être plus de leadership, on va dire, un côté plus hargneux. Mais ouais, faut être sûr que ton left tackle va réussir à tenir sur l'ensemble de la saison. Et bon, je sais pas s'il pourra être aussi régulier que ça sur l'ensemble de l'exercice. Mais c'est pas pour faire du vieux bashing.
Et faut rappeler que c'était déjà une des pires attaques au sol l'an dernier, donc ça va pas aider d'avoir une ligne qui est pas franchement progrès.
Juste si tu me permets, pour rebondir sur ce que disait Raoul, je nommais pas les milliards au sol de David Montgomery. Mais ça rejoint peut-être un autre élément, voilà, c'est comment on va gérer le jeu au sol cette saison. Mais je vais vous laisser donner vos facteurs X. Mais
alors Raoul, ton facteur X.
Moi, mon facteur X, je vous l'explique en deux temps, c'est le coaching staff, mais plus le coaching staff dans la manière dont il va réussir à gérer la situation au poste de quarterback. Parce que je suis d'accord avec ce que dit Greg, Andy Dalton, je suis loin d'être convaincu, même quand il était dans des bonnes conditions, ça n'a jamais été flamboyant. Donc j'espère que, moi j'ai envie de voir Chicago lancer assez vite Justin Fields, mais quelle est la propension de Matt Nagy à se mouiller rapidement et à pas vouloir le lancer trop vite non plus. Pour moi, c'est un peu ça le facteur X, c'est dans quelle mesure on arrive à intégrer Justin Fields au bon moment et à faire gagner cette équipe de Chicago rapidement, sans perdre trop de temps pour autant, parce que la saison elle est quand même courte.
Après, on rappelle que des fois, ça peut se jouer à rien. Hein. Les débuts d'un rookie l'an dernier, Justin Herbert débute parce qu'un médecin perfore les poumons du titulaire. Donc,
et Dieu le bénisse.
Voilà, ça peut être aussi sur pas grand-chose. Grégory, ton facteur X.
Ah, mais je l'ai donné. Hein.
Pour la moi, ligne,
c'est,
oui,
coup, ouais, la c'est offensive. La ligne. Mais alors, du coup, ouais, je rejoins Raoul sur le coaching staff. Plus simplement Matt Nagy. Hein. Ça m'effraie clairement ces head coach qui ont toujours peut-être le besoin de temps en temps de tirer la couverture sur eux pour dire vous avez vu quand même j'ai réussi. Quand t'as un coach comme Andy Reid qui prend pleinement les rênes de l'attaque et où ça fonctionne, tu dis ok. Quand t'as un Matt Nagy qui dirige l'attaque où ça marche pas, où derrière son coordinateur offensif reprend la main et où là le jeu au sol performe beaucoup plus. Et tout, j'ai un peu peur que Matt Nagy, à un moment donné, nous refasse le truc de bon, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais reprendre les rênes et vous allez voir ce que vous allez voir. Et que ça se recasse les dents, encore une fois, en exposant en plus Justin Fields si c'est lui qui est aux commandes de l'attaque.
Il commence à être en danger quand même très sérieusement, Matt Nagy. Je pense que la sélection de
Oui.
Fields lui a apporté un peu de répit, mais ça se joue à pas grand-chose. Je vois sur mes notes que j'étais très généreux, puisqu'en Factor X, j'ai mis les cornerbacks. Hein, donc, on est plus près du point faible que du. Mais en fait, je crois que j'ai mis les cornerbacks parce qu'en effet, comme le groupe de safety avec Eddie Jackson notamment derrière a quand même du très bon potentiel, je me dis que si Johnson confirme, après, si tu arrives à trouver un numéro 2 et à bricoler, tu peux quand même avoir quelque chose et avoir une défense solide au global, quoi.
Les corners, c'est un peu le facteur X défensif, du coup.
Oui, bah oui,
Mais
c'est ça. C'est
encore
ça.
que tu sais pas trop s'il performe pas, est-ce que la défense sera vraiment à l'agonie? Je sais pas, mais
Peut-être pas quand même.
non, mais ça peut commencer à aller vite, quoi. S'il performe pas, puisque
Ouais.
l'attaque sera quand même pas un point fort cette année, donc ça peut commencer à défiler, quoi. Du côté du calendrier, ça commence chez les Rams. Ensuite, ce sera Bengals, Browns à l'extérieur, Lions, Raiders à l'extérieur, Packers, Buccaneers à l'extérieur, 49ers, Steelers à l'extérieur. Repos en semaine 10, ensuite ils jouent les Ravens, les Lions à l'extérieur, les Cardinals, les Packers à l'extérieur, les Vikings, les Seahawks à l'extérieur, les Giants et Minnesota à l'extérieur. C'est un calendrier quand même assez ardu parce qu'en dehors de leur division où déjà il faut se coltiner des Packers et des Vikings qui sont quand même au-dessus hein, actuellement, ils croisent quand même avec les Rams, avec les Browns, avec les Buccaneers, avec les 49ers, avec les Steelers, avec les Ravens. Les Cardinals dont on a parlé hier qui sont costauds aussi, Seattle. Bon, il y a quand même pas beaucoup de matchs où il semble favori, non?
Assez peu. Moi, je leur ai donné 5 victoires. Ça paraît dur, mais effectivement, le calendrier est très difficile. Et tu vois, je réécoutais là quand tu donnais le calendrier. Sur les 4 premiers matchs, tu as les Rams, les Bengals, Browns et Lions. Je pense que si après les Lions, ils sont à 4 défaites en ayant joué Détroit et Cincinnati, ça me surprendrait pas qu'à ce moment-là, on dise au revoir à Matt Nagy.
Alors, tu les vois perdre contre les Bengals?
Bah
Zach
non,
Taylor contre
non.
la grosse défense de
Non,
Chicago? Ah, j'ai
justement
hâte.
pas, justement pas. Mais
C'est
si c'est le
possible, hein,
cas,
attention.
ça commence à être compliqué pour le siège de Matt Nagy, ouais.
Ouais, ouais. Bah, pardon.
Pardon. Non, j'allais juste dire que moi, s'ils sont à 0-4 après cela, j'ai peur qu'ils n'en prennent pas plus de 2, hein.
Les Bears, c'est compliqué, j'en parlais dans un précédent podcast. C'est en fait le truc, c'est que si on regarde l'ensemble de leur campagne 2020, alors beaucoup peuvent juger que leur fiche est boursouflée, parce qu'il y a beaucoup de victoires d'une courte tête, mais il y a aussi beaucoup de défaites d'une courte tête en l'occurrence. C'est une équipe qui a souvent été à un touchdown ou moins qu'il soit devant ou derrière au tableau d'affichage. Donc c'est ça en fait qui m'amène à me dire que certes, on l'a dit, les points forts et les points faibles s'équilibrent un petit peu dans cette équipe-là. Donc ça reste, à mon sens, une équipe de milieu de panier. Après, j'ai du mal à être trop sévère avec eux. J'y vais quand même sur une fiche de 8-9, de par peut-être la transition de Justin Fields, peut-être certains moments avec la O-line justement dont je parlais qui m'inquiète un petit peu. Pff, plus bas, ça me paraît un peu sévère.
Ah ouais,
8,
bah
je
tu
te
vois, moi
trouve
je...
très généreux, mais
Ouais,
soit.
moi je... alors
j'avoue que c'est une équipe très très dure à pronostiquer et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que bah mine de rien, ils ont gagné 8 matchs l'an dernier quand même, là ils auront un quarterback rookie qui arrive mais moi j'avoue que quand je regarde le calendrier, je leur en donne 4.
Oui, mais
Donc
bon,
mais je serais pas étonné qu'ils en grattent 7, tu vois par
c'est
exemple.
ça. L'année dernière, j'étais généreux avec eux, mais bon, ils ont réussi à taper Tampa, par exemple. Tu vois, c'est des matchs sur lesquels tu les voyais pas forcément gagner. Donc, c'est. Voilà, je sais pas si je m'enflammerai au point de les mettre à 9-8 ou 10-7, mais je pense que ça peut encore rester milieu du panier. Ça peut être une équipe très chiante à jouer sur un match en un contre 1.
Oui, et puis c'est pas fou de les imaginer taper Minnesota une fois sur deux, les
Non.
Giants dans leur calendrier, Détroit, Las Vegas, Cincinnati. Tu vois, là déjà, il y en a déjà 5. S'ils prennent Détroit les 2 fois, ça fait
Bah, c'est
6.
ça, hein.
Donc ça peut, hein, moi, mais j'ai
Ah,
du
c'est
mal à
incroyable.
croire dans cette couverture aérienne. J'ai du mal à croire dans la ligne du coup, avec Dalton au début et Fields derrière. Je peux monter à 5,
En
allez.
fait, moi, ce qui me fait vraiment peur avec cette équipe des Bears, pour conclure mon point de vue, c'est que ouais, j'ai la sensation que si vraiment il y a mauvaise fiche, c'est parce que vraiment il y aura eu hécatombe de blessures, que vraiment Nagy aura perdu totalement son vestiaire sur une mauvaise série. Pour l'instant, ça me paraît pas évident, même si, voilà, je l'ai dit, il y a quelques points, notamment en attaque, où si ça tourne plus, ça peut être une saison très longue.
Écoute, moi, je vais dire 5-14. Allez. Non, ça
5-12.
correspond pas à ça parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. 5-12, c'est mieux.
Une saison à 19 matchs, les propriétaires sont ravis.
Ah ouais,
Ben,
moi, je suis là
tu
pour
les
le
vois faire
business.
des
Hein.
playoffs avec une fiche de 4-13 alors.
C'est ça. Moi, là, je suis là pour le business. Je rajoute des matchs. On est à 5-14.
Tout le monde est non, qualifié 5, pour les playoffs.
5-12, allez, 5-12.
Il veut tellement bâcher les Bears.
Ah non, arrête.
3-18 pour les Bears.
On compte les débuts de saison d'après où ils gagneront rien.
Raoul, du coup, t'as combien, toi?
5-12 aussi.
5-12 aussi. Bon, voilà, on termine donc à 2-5-12 et 1-8. Pour Greg, c'est la fin de cette preview des Bears. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'oubliez pas que vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site, sur touchandactu.com. On vous rappelle les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, @tdactu et Instagram, @touchandactu.com. Merci beaucoup de nous suivre. À demain pour une nouvelle preview. À demain, Greg. À demain, Raoul. Ciao, ciao.